Vous êtes bien sur le 93.9 FM, vous écoutez RNG.
First, the basics of particle blast deflection.
Dude, I could beat gaming.
Bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur RNG. Vous êtes sur Radio Campus Paris 93.9 FM. Je suis en compagnie de mon collègue et ami classique Swill.
Hola, como estás, Ulysse?
Très bien, et toi?
Super.
Et on a notre invité habituel pour cet épisode bilan de fin d'année, donc 2025, le seul et unique Kael. Comment il va?
Eh, ça va les gars, et vous?
Ça va très très
ça
bien.
Ça va super.
Du coup, pour cet épisode, vu que ça va être un bilan 2025, le plan il est très simple. On va parler un peu de l'année, on va faire une rétrospective de toute l'actualité qui a un peu rythmé le jeu vidéo en 2025. Et ensuite, on va aussi parler de nos petits chouchous, les jeux qui nous ont marqués, qui nous ont plu. On va aussi avoir notre petite escapade Game Awards, nos attentes et tout. Mais pour commencer, je vais laisser la parole à Swill et parler un peu des actualités, des sujets qu'il voudrait aborder pour ce bilan.
Du coup, on a un peu genre trois big questions, les trois preguntas de cet épisode. Bon, on va commencer avec, je pense, la sortie de l'année, l'événement de l'année. Ça a été quand même la sortie de la Switch 2 en juin, c'est ça? Qui a fait couler beaucoup d'encre, qui continue à générer pas mal de débats avec les récentes sorties. Je pense à Metroid Prime. Et puis, comme on est en 2025, ça va faire 5 ans maintenant que les Xbox Series et la PlayStation 5 sont sortis, donc ça fait maintenant 5 ans que la génération continue de vivre et de nous donner du rêve. Donc on va essayer de faire un bilan un peu plus global, essayer de faire, est-ce qu'on peut prendre déjà certaines conclusions vis-à-vis de cette gen, et aussi pourquoi pas essayer d'imaginer le futur aussi, voir qu'est-ce qui va se passer dans quelques années vis-à-vis de la génération, des consoles en tout cas. Mm-hmm. Et enfin, on s'est mis d'accord sur l'IA. On s'est dit que c'était peut-être l'un des éléments majeurs de cette année qui a généré beaucoup, beaucoup de débats. On en parlait déjà l'année dernière, il y a 2 ans, mais cette année, il y a eu quand même pas mal de polémiques vis-à-vis, qui ont accompagné la sortie de certains jeux. Je pense à Ark Raider, je pense à Call of Duty Black Ops 7.
The Alters aussi.
Mais du coup, honneur à l'invité, je pense. Jules. Ça fait 6 mois à peu près maintenant que la Switch 2 est sortie. Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire vis-à-vis de la nouvelle?
Je pense que le premier élément, c'est le prix qui a choqué tout le monde. Moi, j'étais à l'événement du Grand Palais où ils ont officiellement dévoilé la console. En fait, ils ont mis les journalistes dans une salle pour leur montrer exactement la même bande-annonce qui était diffusée au reste du monde au même moment. C'est extrêmement drôle parce qu'il y avait une énergie de fou dans la salle. Tout le monde était en mode « Ah bah, c'est... » Oui, c'est la Switch 2, c'est exactement la même console, mais c'est quand même super bien. Il y a une exclusivité de From Software sur la Switch 2, on s'est dit, c'est nickel. Et quand ils ont montré le prix, donc 500€ et 90€ pour Mario Kart World, instantanément, l'atmosphère est devenue glaciale. Et on a entendu en plusieurs langues des jurons, mais vraiment dans toute la salle. Que dire que 90€ pour un jeu vidéo, non, même pour Mario Kart World, c'est vraiment pas justifié. Ouais. Je suis désolé. Maintenant, la console, moi, je l'ai, effectivement, j'ai acheté Day One, puisque c'est un peu honteux, mais il y avait un DLC de Kirby que je voulais vraiment faire, qui était exclusif à la Switch 2, ce qui, en soi, on peut le dire, est quand même aussi un peu du vol, parce que c'est un DLC qui pourrait tourner sur la Switch 1.
Parce que le jeu Kirby, il tourne sur Switch 1.
Oui, ouais, oui, oui, à la base, oui. Et c'est à peu près ce qu'on pouvait en attendre, c'est quand même une console qui est plutôt solide, elle peut faire tourner des jeux comme Assassin's Creed Shadows de manière assez propre. Après, voilà, il y aura eu les débats sur le manque de PNJ dans la foule de Cyberpunk, par exemple, mais très franchement, je trouve pas que ce soit le plus important, et ça reste que le début de la console. C'est un portage qui a été fait relativement rapidement, de ce qu'on sait.
Et c'est déjà un miracle que le jeu tourne sur la Switch 2.
Oui, voilà, ouais. Donc franchement, le gap technique, il est énorme. Moi, je pense qu'il y avait tout simplement un peu trop d'attentes sur ce que pouvait être la Switch 2, dans le sens où c'est pas un aussi gros gap que ce qu'on peut avoir, évidemment, avec la Wii. Avec la Wii U, c'était assez attendu et convenu que ce serait un refresh de matériel, et c'est ce que tout le monde demandait depuis les rumeurs sur la Switch Pro, depuis environ 2019. Donc je trouve ça un peu culotté d'en vouloir Nintendo quand ils donnent exactement ce que tout le monde demande. Voilà. Après, d'un autre côté, c'est vrai qu'il y a une nouvelle feature qui est le fait d'utiliser les Joy-Con en mode souris. Il n'y a pas un seul jeu qui utilise ça de manière intelligente, même chez Nintendo.
Ouais.
Et c'est vraiment surprenant parce que d'habitude, ils ont au moins un jeu qui va te vendre la spécificité de la console.
Bah là, c'est le jeu, j'ai envie de dire,
Dragon's
en fauteuil
Drive.
Roulant.
Ouais. Oui, bah oui, c'est le jeu handisport. Mais moi, je pensais qu'il ferait quelque chose du genre Pikmin. Ouais. Parce qu'on sait que c'est une franchise qui est très plébiscitée par Miyamoto. On ne sait pas pourquoi, hein, mais.
C'est son chouchou.
voilà, c'est une franchise chouchou. C'est du jeu de stratégie, donc en soi, ça marche forcément avec une souris. C'est fait pour. Il n'y en a pas un seul à l'horizon qui arrive.
Et même Metroid Prime 4.
Si, Metroid Prime 4, oui, il compte un peu quand même. Mais. Okay. Mais après, il est sorti 6 mois après le lancement de la console. Il n'y a rien eu au lancement pour vraiment dire aux gens « Mais regardez, c'est quand même cool qu'il y ait une fonction souris. » Il y a des jeux de stratégie qui sont sortis entre-temps. Hein. Il y a Civilization, etc. qui sont arrivés sur la console. Mais c'est vrai que ben, force est de constater que c'est un peu un gadget, ouais, cette fonctionnalité, ouais. Pour le moment.
Mmh. Bah moi, je te rejoins un peu là-dessus parce que j'ai aussi eu la Switch 2 du coup Day One. Moi, c'était un cadeau que j'avais eu pour mon anniversaire, donc une précommande. Et c'est vrai qu'il y avait... Moi, du coup, j'ai pas eu de l'aspect presse. J'ai vraiment été le récupérer, donc c'était... Pour ceux qui vont au Val d'Europe, il y avait une Fnac, donc il y avait énormément d'attentes. Il y avait vraiment une file pour aller récupérer la console. Ils avaient mis plein de petits jeux, tu sais, si tu voulais prendre et tout. Et déjà, il y avait les Game Key Cards. Et c'est vrai que là, en 6 mois, moi, je suis très satisfait de la console. Je trouve que, tu sais, en termes de prise en main, elle est vachement agréable. Les Joy-Con qui se clipsent, c'est un truc auquel je pense que je vais jamais me lasser. Je trouve ça hyper satisfaisant. Mais il y a aussi un élément, si par exemple, on prend juste l'écran. Passer moi de la OLED à celui-ci, je trouve que du coup l'écran il pète quand même beaucoup moins, il est moins qualitatif. Et même si elle est plus puissante ou autre, je pense que comme tu disais, il y avait beaucoup d'attentes sur la Switch 2, mais je pense que ça vient du fait que le marché des consoles portables aussi il a évolué avec le Steam Deck, les ROG Ally ou les Lenovo Legion. Il y a aussi un truc où avant la Switch était toute seule, maintenant il y a ces consoles, donc un peu des mini PC portables qui sont arrivés. Et donc là où le Steam Deck il propose, je crois, des petits pavés tactiles, c'est une expérience entre guillemets premium portable, là où la Switch 1 c'était quand même assez limité, les gens se sont dit ah est-ce qu'on va avoir un nouveau gap, et finalement on est sur une console qui vient un peu en terrain connu sur le même fait s'aligner en fait en termes de puissance ou de proposition. Et je peux comprendre qu'il y ait des déçus, je pense que c'est une console qui est prometteuse parce qu'on va voir ce qu'elle va amener en termes d'exclusivité, et puis elle a l'air de pouvoir respirer comme avec des gros jeux genre AAA, des Outlaws. Enfin, Ubisoft a montré niveau portage que c'était hyper qualitatif. Maintenant, je pense que ouais, c'est un peu 6 mois un peu tiède où on attend un peu les jeux. Dès qu'il y a une sortie, on se dit ah, est-ce que ça vaut le coup d'acheter la Switch pour celui-ci ? Il y a eu le débat avec Mario Kart World, avec Bonanza, là avec Metroid Prime 4. Et je pense ouais, que c'est un peu en demi-teinte. Pas okay. Si toi, Soul, tu l'as testé, je sais, en partie.
C'est ça, je l'ai testé parce que moi, ce qui est intéressant, c'est du coup, bah, je ne possède pas la console, je ne l'ai pas encore acheté. Ça va peut-être être le jeu de From Software qui va me faire craquer, je pense. Mais moi, du coup, je l'ai vu un peu de loin, mais ce qui m'a vraiment intrigué avec cette console, c'était du coup bah, vraiment la qualité des portages. Du coup, vraiment le challenge que ça a été. Et je pense beaucoup à Star Wars Outlaws. J'ai adoré de voir ce qu'a pu faire Ubisoft avec ce jeu sur la Switch 2. Donc je suis vraiment, vraiment intrigué. Et surtout, on en a parlé pas mal dans l'épisode sur la technique. Moi, l'un des éléments qui me hype le plus des prochaines années, ça va être du coup comment les jeux, les gros jeux qui vont sortir dans les prochaines années, vont être optimisés sur la pléthore de consoles portables qu'on a, tu vois, dont la Switch 2. Donc, elle m'intrigue beaucoup. Je trouve que voilà, un jeu comme Metroid Prime 4, visuellement, il en jette. Peu importe ce que les gens disent du désert, parce que le jeu n'est pas que le désert, je veux dire, il y a quand même d'autres endroits dans le jeu qui sont vraiment à couper le souffle. Je pense que c'est vraiment moi, c'est le jeu FromSoft qui va peut-être me faire craquer. J'attends, mais franchement, ouais, je la trouve intrigante. Et après, voilà, je suis en mode, il n'y a que 6 mois, on verra ce qui va peut-être arriver en 2026 avec des plus grosses sorties. À voir.
Ok. Bah, en soi, ça fait directement la transition sur le deuxième sujet, qui était donc.
Un bilan un peu plus global.
Le bilan un peu de la génération, donc là je vais aussi laisser la parole un peu à Jules là-dessus. Le contexte c'est que voilà, donc les PS5, Xbox Series X et S sont sortis donc fin 2020, si je ne me trompe pas. Là on est sur la cinquième année d'exploitation où on vit avec ces consoles. Et la question qu'on avait, et ça rejoint là en gros ce que disait Swill sur le fait qu'il y aura de plus en plus de consoles portables. On sait qu'il y a une PlayStation portable qui devrait venir, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de ça. Xbox qui tâte le terrain aussi avec ses consoles. Donc la question c'est quoi le bilan que toi tu tires de cette moitié de génération de consoles ?
Moi, jusqu'ici, je trouvais que c'était un peu dur les gens qui disaient que c'était la pire génération de l'histoire, même s'il y avait objectivement des arguments Je pense que la génération, par exemple, Atari 2600 était bien plus catastrophique, ne serait-ce que parce que l'industrie a failli imploser.
Ouais.
Si on veut faire le vrai bilan, c'est peut-être celle-là la pire tout de même. Mais c'est vrai qu'au bout de 5 ans, alors c'est pas entièrement la faute des studios et des éditeurs, puisqu'il y a eu le Covid, il y a des événements complètement aléatoires, comme la guerre en Ukraine, comme des choses... Voilà, une période qui est bizarre, donc on peut aussi comprendre que les productions sont un peu chamboulées, savent pas trop où se mettre. Ne serait-ce qu'aussi l'instabilité politique aux États-Unis, on peut pas nier que ça doit avoir un impact à un moment ou à un autre sur la production. Ne serait-ce que parce que les coûts en plus deviennent déraisonnables du jour au lendemain, ben, ils ont aucune visibilité, donc forcément il y a un impact. Donc moi je ne suis pas de ceux qui disent Sony ce sont vraiment tellement des imbéciles parce qu'ils ont un catalogue trop faible. Surtout que c'est avoir la mémoire un peu courte, la PS4 ça a été exactement pareil et aujourd'hui tout le monde dit que c'était une très bonne console. Et on se rappelle, tous les gros fusils de la PS4 c'était à la fin. The Last of Us 2, God of War 2018, tout ça c'était plutôt vers la fin. Mais bon, il faut quand même reconnaître que Xbox c'est un cadavre ambulant. Je peux entendre qu'ils vendent encore des consoles, ils sont techniquement pas morts. Il n'y a plus aucune âme, on le dit chaque année.
Les stats là avec le Black Friday.
Oui, les statistiques sont compliquées en plus.
Vous savez, c'est derrière quelle console qui se sont retrouvées ? Il y a une sorte de.
La Next Playground, ouais.
Ouais.
Oh,
on
ne
sait même pas ce que c'est.
On ne sait pas, mais ouais, je crois qu'ils sont dans les 10-15 derniers pourcents de vente Xbox, hein, j'entends.
C'est parce qu'en fait, Xbox, il n'y a plus aucune raison d'acheter aujourd'hui une Xbox, une console Xbox, je veux dire, pourquoi faire ? Tu peux acheter une PS5 pour un prix qui est aujourd'hui inférieur et pour un catalogue de jeux similaire, en réalité. Moi je reste en plus sur mon interprétation que l'Xbox Game Pass va atteindre une stagnation parce que on peut pas Netflixiser le jeu vidéo et on peut pas juste prendre un jeu comme ça et dire bah je vais essayer, non, parce que déjà il faut le télécharger, c'est extrêmement long, et ensuite il faut apprendre les contrôles, c'est pas comme mettre une série comme ça que tu mets,
tu binge-watch, voilà.
Voilà, tu peux pas faire ça aussi simplement, c'est pas vrai, il faut arrêter. Donc il y a forcément un plafond au bout d'un moment de joueurs volontaires pour ce système là et puis oui, de toute façon il y a eu des informations à ce sujet où Satya Nadella, les grosses villes de Xbox veulent une rentabilité, je crois, de 30% de
marge. J'avais vu
le des chiffres qui sont complètement déraisonnables et impossibles. Et ça mène à quoi ? Ça mène évidemment à des licenciements. Et ça, on pourra en reparler pour l'IA. Mais les licenciements, c'est aussi la grande tendance, on va pas se mentir.
Ouais, chaque épisode bilan, on en fait. On parle.
Mais oui, mais le problème, c'est que ça se fait qu'empirer chaque année. Quoi.
Bah oui, c'est ça.
C'est peut-être en ça que c'est effectivement la pire génération. C'est la génération qui a le moins construit, qui a le plus déconstruit juste ici, en réalité, que peut-être le jeu vidéo. Quoi. On a l'impression que le champ des possibles, il se rétrécit en permanence. Puisque d'une part, les employés sont virés et sortent de l'industrie, puisqu'il y a quand même des métiers dans l'informatique qui sont beaucoup plus, beaucoup mieux rémunérés. Mmh. Moins drôles, mais beaucoup mieux rémunérés. Ils vont travailler dans la banque et là, bizarrement, ils peuvent payer une maison, ouais. Tout simplement. Mais aussi parce que on atteint un plafond technique, et c'est aussi là où je voulais en venir, c'est qu'on parle déjà de la prochaine génération, PS6, prochaine Xbox, parce qu'il y a une sorte de logique commerciale où il y a un roulement qui est attendu aussi par les investisseurs, mais voilà, il y a cette logique de rester dans ce roulement. Alors que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune bonne raison de passer à la PS6 et à la Xbox 720. Est-ce qu'on peut l'appeler comme ça, la Xbox 720 ? Non, mais il n'y a aucun gap technique qui le justifie. Moi, j'ai une 5080 sur mon PC parce que ça m'amusait d'avoir une 5080. La grande réalité des choses, c'est que je fais tourner les mêmes jeux qu'une PS5.
Ouais.
Ça n'a absolument aucun intérêt aujourd'hui d'aller vers une PS6 qui, en plus, aura quoi ? Une 5080 embarquée ? Donc, d'ici 2 ans, alors oui, plus accessible sans doute. À quel prix ? Bon, un peu plus accessible, probablement. Ouais. Mais vraiment, vers quoi se dirige-t-on ? Vers un très très grand malaise, je pense, à l'annonce de la PS6. S'il n'y a pas un form factor un peu sympa, comme une manette un peu originale, peut-être. Je vois pas trop.
Bah, c'est un peu la réflexion que soulève la Steam Machine, où on voit que le form factor, il est hyper impactant, parce que beaucoup de gens qui attendent la Steam Machine, finalement, parce qu'en termes de composants, c'est assez simpliste, tu vois, c'est un peu moins performant qu'une PS5 ou une Series X. Mais le fait que ce soit un petit cube que tu puisses customiser avec la petite barre LED qui montre le téléchargement.
Elle a de l'originalité.
Beaucoup de gens la trouvent vraiment mignonne, tu vois. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Maintenant, moi, c'est marrant parce que ma prise de conscience, ça s'est faite où avant, j'étais plutôt du rapport à me dire s'il y a une nouvelle génération, c'est d'ici 2 ans. Pour moi, c'était assez cohérent. Parce que tu vois les limites de la PS5 sur des titres, enfin des moteurs de jeu en fait qui sont pas bien optimisés pour les consoles. Genre l'Unreal 5. Je sais que Soul a commencé Clair Obscur Expedition 33, gros jeu événement de l'année.
J'en pense pas grand chose.
Je rigole. Et en tout cas, techniquement, le mode performance, il souffre beaucoup. Et il y a beaucoup de jeux Unreal comme ça, où soit on va sacrifier les lumens, donc le ray tracing qui devrait être incorporé au côté software, ou la résolution. Et donc, on pourrait dire qu'il y a la PS5 Pro qui est censée un peu step up, mais c'est le même processeur, donc c'est juste la partie graphique. Et en fait, ma conclusion, c'est que pendant 30 ans, je me disais, pour moi, d'ici 2 ans, il y a une nouvelle génération de consoles. C'est assez logique, c'est cohérent, il faut que ça bouge. Et en même temps, le fait est qu'on parle autant de consoles portables, ça m'amène un peu à cette réflexion de me dire que c'est peut-être la cross-gen la plus longue qu'on aura de l'histoire. Moi, je pense que même s'il y a une nouvelle PS6 qui sort et une autre console Xbox, imaginons d'ici 1 ou 2 ans, en fait, il n'y a aucun monde où ce que fera cette console, comme le dit Jules avec la 5080, la PS5 ne pourra pas le faire en moins bien, en grossièrement parlant, en fait. Et c'est un peu le même constat que j'ai aussi, parce que moi, je sais que je joue aussi pareil sur mon PC qui est à peu près, on va dire, la même config. Et parfois, du coup, je fais des jeux sur mon PC, d'autres sur ma PS5. Et tu sais, je me rends compte que, ouais, à part quelques détails techniques, enfin, tu sais, je joue au même jeu vidéo. Je suis passé de Outlaws en path tracing et tout sur PC. Je l'ai fait dans ces conditions-là. J'ai voulu tester la version Switch 2 par curiosité. J'étais en mode, ouais, elle est moins jolie, mais c'est le même jeu. Tu sais, genre, c'est pas une version PS2 tronquée d'un jeu PS3 ou autre. C'est la même structure, la même ossature. Donc, je sais pas ce que toi t'en penses, Will, mais ouais, c'est une génération.
Non, je suis assez d'accord. C'est pas une génération étrange, mais surtout, moi, je pense qu'elle va perdurer, surtout vis-à-vis du temps de développement des jeux. Je pense que la raison pour laquelle la PS4 continue la cross-gen, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait sortir, même après 2020, des jeux en bonne qualité sur PS4. Je pense aux jeux comme sur PlayStation, hein, je sais pas, les Ragnarok, les Forbidden West, qui ont eu des versions PS4 d'excellente qualité, vis-à-vis de la console qui est sortie genre en 2014 ou 2013.
2013, ouais.
2013. Insane. Et la PS5, je pense que ça va être un peu la même chose, surtout que les jeux mettent plus de temps à développer qu'il y a 10 ans. Et je pense que là, les AAA, c'est... Wow, on atteint un peu une forme de... Pour moi, on peut pas faire pire, mais si on y arrive, waouh, franchement, félicitations les mecs. Et je pense à voilà, des jeux genre... un jeu comme... C'est bête, Naughty Dog, ça fait maintenant 5 ans que la génération a commencé. On a eu voilà, un port de Last of Us 2 d'assez bonne qualité, faut pas déconner, mais on n'a pas de nouveau jeu, il n'y a pas un jeu PS5 pensé comme a été Uncharted 4 ou Last of Us 2 pour la PlayStation 4. Et le fait que là, on va arriver vers voilà, Intergalactique, moi je le vois bien sortir en 2027 par exemple. 2027, beaucoup considèrent cette année-là comme la fin de la gêne. C'est ouais. Pour ça que moi, avec cette réflexion de pensée-là, je situe plus la fin de la gêne, du coup, arriver plus vers 2029. Je sais que c'est... Dire ça, les gens ils sont en mode « What ?» Mais c'est un argument que je maintiens. Et vis-à-vis du temps de développement des jeux, ça me paraît logique que malgré voilà, le fait qu'on parle voilà, d'une logique de roulement pour les constructeurs, de « Il faut sortir voilà, des consoles », je pense qu'on va avoir une PS5 qui va aller chercher 2029, tout ça. Et on n'a pas entendu parler, je pense, de la prochaine Xbox et de la PS6 avant un bon moment, personnellement.
J'ai une question justement pour Jules à ce niveau-là sur les prochaines consoles. Si on devait un peu lancer des paris sur les prochaines consoles, on voit que donc, là, les prix des PS5 et Xbox Series ont augmenté. La cause à l'inflation, la cause aux composants qui sont de plus en plus compliqués à trouver, j'imagine, enfin à fabriquer. On voit même la RAM là qui explose. Du coup, ma question pour Jules, c'est... Est-ce que tu penses que la prochaine génération de consoles peut être celle qui brise un peu le plafond de verre du prix acceptable d'une console? On a vu qu'à l'époque, c'était la PS3, je crois que c'était 600€, qui avait fait un choc.
Et c'était pas acceptable.
Voilà, c'était pas acceptable. Est-ce que pour toi, ça serait acceptable d'ici 2-3 ans de mettre une console à au moins 600, 700, voire allez, 800€, console de salon?
Pour moi, malheureusement, on est déjà dedans. De toute façon, l'inflation va faire qu'on n'a pas le choix d'y aller, même en restant sur la même console. Je pense que c'est ubuesque de penser que la PS5 et la Xbox ne vont pas remonter de prix dans les
Encore
années à venir.
Ah bah, okay.
Parce que la RAM, moi je pensais surtout en parler effectivement dans le segment sur l'IA, puisque c'est à cause de l'IA que y a le prix de la RAM explose, mais il a triplé, voire quadruplé déjà sur certains modèles. Et dans une console, il y a quoi? Il y a de la RAM. Donc nécessairement, le prix va augmenter, et au bout d'un moment, PlayStation et surtout Xbox ne vont pas vouloir vendre à perte non plus. Donc le prix va évidemment être répercuté sur le consommateur. Après, oui, je pense que le prix des prochaines consoles va être encore plus énorme. Et surtout, je me demande comment on va pouvoir le vendre très sérieusement aux consommateurs. Au bout d'un moment, je veux dire, si la Wii U a raté parce que les gens ne voyaient pas la différence avec la Wii, je vois pas comment on va pouvoir vendre la PS6 au très grand public, surtout avec les clients usuels qui prennent, on va dire, pour un FIFA, pour un Call of, même si ça commence à devenir plus désuet cet argument à cause de Black Ops 7. Mais bon. Peu importe, ils ne verront pas une différence fondamentale, et même pour se faire plaisir, à part à la limite pour un marqueur de statut, pourquoi tu prendrais une PS6 vraiment? Il faudrait vraiment qu'il y ait une exclusivité énorme au lancement, et même moi, qui ai pris la PS5 au lancement, j'étais assis dans Gare de Lyon à Refresh Amazon le jour de lancement des précommandes pour l'avoir, Là, à moins vraiment qu'ils me cueillent avec genre Ratchet et Clank exclusif ou quoi, je me vois pas la prendre au lancement, en fait. Pourquoi ouais. faire? Pourquoi couler 800€ pour une exclusivité? Ça devient complètement fou.
Totalement d'accord.
Du coup, t'as pas envie de prendre la PS5 Pro non plus
Alors ça, c'est un des plus gros scams actuels du jeu vidéo, faut quand même le dire. Je rappelle que sur la vidéo de présentation de la PS5 Pro, ils ont dit « Regardez, les feuilles sont mieux dessinées dans Spider-Man 2. » Les feuilles des arbres. Mais c'est complètement idiot, tu regardes pas les feuilles des arbres dans Spider-Man 2, en fait. Enfin, c'est pas un problème de gameplay.
Oui.
Et là, c'est plus une question de gameplay du tout. Les mecs, ils sont vraiment dans une question seulement de photoréalisme, mais ça n'a aucun intérêt. Mais alors, ça n'a aucun intérêt.
On est revenu en 2005. On est vraiment revenu en 2005.
Et surtout que les fameux 12 teraflops de la Xbox Series n'ont servi à rien, on le rappelle. Hein. Donc, la oui, course à la puissance, c'est totalement inutile. Ça a été prouvé sur les 5 dernières années. C'est aberrant.
Et bah, je te laisse ouvrir directement sur l'IA, sauf si Soul, tu voulais finir avec un mot.
Non, moi je voulais. Allez, juste rajoute ça parce que c'était un élément que j'avais marqué vis-à-vis de la gêne. La remise en question un peu du statut du AAA vis-à-vis des ces deux dernières années avec des sorties majeures de jeux qui sortent à. Voilà, tu nous as parlé tout à l'heure de Mario Kart World à 90€. En contraste de ça, on a eu beaucoup de jeux cette année. On en parlera peut-être dans la deuxième partie. De jeux qui sont sortis à voilà, 40, 50€, 20€ pour un petit jeu sorti en septembre.
Ouais, petit.
Petit, ouais. et derrière, donc, j'avoue que c'est une tendance de 2025, je trouve, de cette génération qu'on retrouve un peu moins que, pour, par exemple, il y a 10 ans, je sais pas, voilà des jeux vraiment qui sortent à la moitié du prix du tarif plein, tu vois, et qui viennent voilà, discuter en termes de qualité, de contenu, très bien avec des jeux AAA. Moi je trouve que c'est une tendance assez positive, du coup on arrive à avoir une sorte de réponse à des politiques tarifaires totalement abusées de la part de Nintendo, et surtout que je suis persuadé que PlayStation et Xbox vont faire un vilain plaisir à s'aligner dessus, parce qu'il faut pas oublier,
si je peux intervenir, je trouve même que de base c'était Sony qui avait monté le prix des jeux en disant ah bah non pas de 70 à 80, et Nintendo qui se dit
on rajoute. Et ça passait, plus c'est gros, plus ça passe, j'ai l'impression, genre là, ça fait 6 mois que Mario Kart World est sorti, c'est passé comme une lettre à la poste. Il y a un côté de, peu importe les pratiques, à la fin, les gens vont laisser passer, genre c'est ça qui est assez ouf, mais voilà.
Et pour compléter rapidement, je suis complètement d'accord, ça fait quelques années que les jeux dits double A, de gamme effectivement, 40€ de prix montent, notamment grâce à des pays émergents, entre guillemets, dans l'industrie. Alors, je vais pas dire la Pologne, parce que la Pologne, ça fait un moment qu'ils sont quand même bien implantés, mais il y a de plus en plus de studios qui vont là-bas pour une raison qui est extrêmement simple. Il y a beaucoup de travailleurs qualifiés, mais à un prix bien moindre qu'en Californie. Donc, ça a donné des jeux qui sont très bien, hein, comme Cyberpunk ou des jeux AA comme Robocop Rock City, qui ont eu leur succès et qui sont très bien. Mais aussi, le dernier point que je veux absolument soulever pour cette génération, c'est l'émergence de la Chine et de la Corée du Sud, pas seulement sur des free-to-play et des jeux mobiles où ils étaient quand même relativement bien installés, mais aussi sur des secteurs de jeux AAA classiques. Solo, ce qui est assez intéressant, parce qu'on aurait tendance à se dire que comme les Américains, souvent, ils voulaient se détourner du AAA solo pour aller vers des trucs tout multijoueurs, tout jeu service, des Forever Games, les Chinois et les Coréens feraient pareil, mais non, c'est eux qui viennent sur le terrain du joueur solo, et qui en plus ont des succès là-dessus. Donc ça montre bien que déjà toute la philosophie américaine des années 2010 était complètement à côté de la plaque. Et, secondo, c'est tout simplement intéressant de voir effectivement des nouveaux projets comme ça. Il y a évidemment Wukong qui avait fait beaucoup de bruit, et aussi cette année, par exemple, Wu Chang, qui est un Souls-like, qui, moi, j'ai eu de très bons retours. Il y a Stellar Blade l'an dernier de Corée du Sud, il y a Lies of P, et il y a moult jeux dont je ne retiens pas le nom parce qu'à chaque fois, c'est des formules un peu alambiquées. Il y a moult jeux annoncés de Chine et de Corée du Sud à venir dans les deux prochaines années.
L'année prochaine, il y a Tides of Annihilation, je crois, qui est un peu genre le.
Alors, ça a l'air un peu nul, je vais pas mentir.
Oui, ça a l'air fun. Je sais pas,
Il y a un jeu, The Godslayer, qui est sorti, enfin, qui est apparu sur les réseaux il y a genre une semaine et qui a l'air totalement fou. Donc, bref, à voir. À voir ce qui nous réserve, et si ça va être un peu mieux que Wukong, qui malgré sa popularité reste quand même très basique.
Ouais.
Mais bon, il faut bien essuyer les plâtres, il faut bien qu'il y en ait un premier.
Oui, voilà. C'est ça, exactement.
Décennie chinoise dans la décennie du slop, on y est, hein, franchement.
Les Chinois nous dominent même dans le pire, finalement.
On peut passer à l'IA, let's go. Ça, franchement. C'est quoi, on va commencer avec Ark Raiders. Pas si. Contexte, pas contexte, comment on amène le. La dinde.
Enfin, parce que moi, ma question pour un peu lancer le sujet, ça aurait été comment chez Gamekult ou d'autres rédactions, vous avez pris en compte le fait que l'IA commence à être omniprésente en fait dans le jeu vidéo, et surtout, comment vous la considérez, sachant que peut-être il y a différentes définitions à en avoir de son utilisation. Genre, c'est quoi votre approche sur un jeu qui utiliserait ou utilise de l'IA?
Globalement, on leur crache à la tronche. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure à ce sujet. Il y a peut-être que Ark Raiders et The Finals qui ont une espèce de laisser-passer parce que, soi-disant, ils compensent les acteurs et les actrices de manière équitable. Après, la question de la compensation, là, c'est un grand sujet. On pourrait se lancer dans un laïus économique. Mmh. Aujourd'hui, peut-être la compensation est équitable et peut-être que dans 5 ans, le travail sera dévalorisé. Donc, la compensation équitable sera en réalité sous-évaluée, etc. Bref, c'est un très vaste sujet spéculatif et je ne suis clairement pas qualifié pour rentrer dans les détails. Nous, ce qu'on voit, c'est tout simplement qu'on est dans une bulle économique et même au niveau de la presse, hein, de toute façon, l'IA tend à s'immiscer partout. J'ai vu un très bon bloosk aujourd'hui sur Blue Sky de quelqu'un qui disait, d'un collègue de Canard PC, Kokobe, qui disait, je crois que c'est lui, qui disait « On est tellement dans une bulle de l'IA que maintenant YouTube me propose des vidéos sur les bulles des vidéos qui parlent de la bulle de l'IA. » Donc on est vraiment dans une inflation galopante. Et bah que dire, à part que généralement c'est médiocrissime à tout point de vue, l'implémentation. Moi, je pense à Anno 117, où il y a eu un artwork par IA qui a été repéré, et ils ont dit non, mais promis, il n'y en a qu'un seul dans le jeu. C'est impossible. Tu ne fais pas un artwork par IA. C'était
juste
aucun sens.
C'est vous les tests.
Oui, voilà, c'est ça. Genre, on en a mis un pour rire. Non, personne ne fait ça. J'avais deux points que je voulais vraiment aborder. Moi, pour moi, c'est la crise du coup de la RAM, qui est complètement absorbée par l'industrie de l'IA, qui donc non seulement va faire exploser le prix des PC pour les consommateurs, des PC et des consoles, mais qui en plus va poser problème à beaucoup de développeurs puisque comme il y a eu énormément de licenciements, il y a la culture de l'optimisation et le savoir-faire de l'optimisation technique qui s'est énormément perdu. Et comment on compensait ça jusque-là? En faisant des cartes graphiques toujours plus délirantes et des barrettes de RAM toujours plus nombreuses parce qu'on se disait c'est pas grave, il y a plein de RAM, il y a plein de cartes graphiques et de toute façon, les pauvres n'ont qu'à s'acheter une meilleure carte graphique et ils joueront à Jedi Survivor à plus de 20 FPS. Jedi Survivor qui est très mal optimisé toujours aujourd'hui, c'est une honte absolue. Et là du coup, maintenant, les personne moyenne n'aura même plus de quoi se payer la RAM nécessaire pour les studios AAA, donc j'aimerais bien voir comment ils vont s'en tirer. Le second point que je voulais dire, c'est quand même que Pocket Pair, donc qui sont derrière Palworld, eux, ils avaient fait un jeu avec de l'IA avant, une espèce de Gartic Phone avec IA dès 2022. Et aujourd'hui, ils ont un bras d'édition, et le responsable de l'édition a dit texto, ne nous envoyez pas de jeu avec de l'IA. Nous, on l'a fait, on en est revenu, on ne veut pas entendre parler de ça. Donc, c'est-à-dire que les gens qui l'ont pratiqué, à la fin, ils disent non, il ne faut pas. Et ils parlaient, c'était intéressant, d'une sorte de marché de l'authenticité où il y aura une espèce de plus-value à dire que voilà, mon jeu a été fait par des humains, etc., dans les règles de l'art. Après, attention quand même au marché de l'authenticité, parce que, je vais faire une virgule politique, mais on voit les fêtes soi-disant authentiques, franchouillardes à la campagne de Monsieur Sterrin qui consiste à découper un cochon avec trois mecs avec des bérets et des machettes autour.
Et des moustaches
authentiques, évidemment. Ouais. Donc c'est pas parce qu'on dit que c'est authentique. Mais il y a cette idée, effectivement, d'une revalorisation potentielle du travail humain, qui est peut-être un doux conte de fées quand même. Mais la question, c'est quand est-ce que la bulle va péter, parce qu'elle doit péter à un moment. Mmh. Et qu'est-ce qui va se passer?
Moi, personnellement, pour rebondir dessus, moi, ce que j'ai trouvé intéressant de mon point de vue sur cette année, sur vis-à-vis de la communication, je trouve qu'il y a un flou assez étrange. Moi, je pense beaucoup à Black Ops 7 et en comparaison avec Ark Raiders. Je pense aux critiques qui ont été faites par Eurogamer. Eurogamer qui avait proposé vraiment une critique assez agressive, voire limite assassine de Ark Raiders en disant que l'usage d'IA générative n'avait pas sa place. Mais derrière, avoir plutôt un sorte de laisser-passer, j'ai envie de dire, a été un peu plus doux avec le Call of Duty qui était sorti, je crois, un mois après.
C'est vrai que j'avais été choqué, d'ailleurs, la différence de traitement manifeste.
Ouais, exactement. Et surtout que, moi, ce que je trouve assez étrange, c'est la manière dont la communication, genre, comment l'IA s'implémente dans le jeu vidéo et derrière, comment c'est un peu toujours aux gamers d'aller... tu sais, il y a pas de transparence avec ça, en fait. C'est-à-dire que Black Ops 7, si personne avait dit « Ah, regardez, l'emblème, là, il a été généré par IA. » En plus, c'est vraiment genre IA level 1, c'était genre des genre de trucs un peu à la Miyazaki, tu vois, genre
ouais,
des emblèmes et tout,
ouais.
Avec c'est des trucs vraiment visuellement infâmes, tu vois, il n'y a même pas aucun travail qui a été fait là-dessus. Et derrière, genre, il n'y a aucune communication, tu sais, genre, ils prennent pas le temps de dire « Oui, on a... » Genre, dites-le, tu vois, moi, c'est un peu le truc, c'est « Dites-le, assumez. » Prenez-vous une vague de shitpost et puis c'est bon. Moi, ce qui m'énerve un peu, c'est constamment les joueurs qui doivent, tu sais, genre, pointer du doigt. Il y a un peu une chasse, du coup, qui se fait, qui est totalement légitime. Mais derrière, je pense que l'industrie sait un peu, je pense qu'il y a un côté de, ils savent que ça a mauvaise presse, et du coup, genre, ils essayent de cacher ça un peu sous le tapis. Et ça a été un peu ça toute l'année. J'ai l'impression que, ça se trouve, tu sais, il y a des jeux qui ont fait usage de l'IA générative dont on ne sait pas, tu vois. Et c'est un peu le du coup, il y a un peu, je sais pas, je veux dire, de paranoïa ou quoi que ce soit, parce que la menace est réelle. Et derrière, c'est toujours aux joueurs, du coup, de, même moi, genre, il y a pas mal, parfois, je vais jouer à un jeu, je vais me dire, ah, tu sais, je vais être un peu réticent, je vais me dire, ah, est-ce que, il y a de l'IA quelque part ou quoi que ce soit, il y a un peu une sorte de rapport à ça qui est assez étrange, parce que derrière, l'industrie, je pense, manque de transparence vis-à-vis de l'usage de cette technologie, tu vois.
Ouais.
Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'inquiète dans le futur aussi.
Bah, je partage de toute façon ton ressenti et celui aussi de Jules. On a besoin de savoir, comme le dit Jules, un peu le bail de l'authenticité, en fait, de savoir si ton jeu, il y a eu de la passion, s'il y a eu du travail, c'est aussi pour le valoriser. Même si il y a ou non... ça n'empêchera jamais du plagiat. On l'a vu avec le nouveau jeu de Bungie.
Marathon.
Il y aura toujours des problèmes à l'échelle humaine, mais ça n'empêche que, je pense, on a un droit de transparence sur, en tout cas, les moyens de production d'un titre et de savoir, ouais, est-ce que quelqu'un s'est pas fait sucrer son taf derrière. J'ai juste une anecdote par rapport au doublage, justement. Donc moi, je suis comédien aussi, à la base, à la côté de RNG et tout. Et j'avais répondu à une annonce en France. Il y avait une boîte il y a 2 ans qui cherchait des acteurs et actrices pour faire leur copie numérique. Donc le visage, la voix. Et donc on devait être payé au nombre de vidéos qui étaient générées avec notre IA. Tu vois. Donc on touchait, je crois, je sais plus, 10 centimes par vidéo, un truc. Donc ils voulaient en faire des centaines et des milliers. Et c'est là que ça devenait intéressant pour nous. Et je pense que c'est un peu le problème qu'il y a avec, par exemple, ArcRiders qui dit « Ah oui, mais on a payé pour... avoir leur identité vocale », c'est que oui, ça déprécie leur valeur, parce qu'en fait, tu peux la décupler à volonté. Il n'y a plus de session de studio de mixage, en mode « Ah bah vous venez ici, tu fais un tournage », c'est genre non, on l'a à volonté, on vous donne un peu de thunes, ok, ils sont rémunérés, mais en fait, ils sont rémunérés le... Enfin, tu vois, c'est des coupes, en fait.
Oui, donc, c'est ce que je disais, la rémunération à la fin devient une valeur en fait arbitraire et décorrélée du travail réel. Et à la fin, du coup, on peut effectivement la biaiser comme on veut, et c'est évidemment une dépréciation.
Voilà, ça dévalorise de ouf, bien sûr.
Ne quittez pas. Vous êtes toujours sur le 93.9 FM. Vous écoutez. RNG.
Du coup, pour cette deuxième partie, voilà, avec un peu plus de légèreté, on va voilà, faire un tour de table sur voilà, nos pratiques de gamer, comme j'aime dire. Jules, voilà, parle-nous un peu de ton année 2025. Voilà, combien de jeux t'as pu faire, je sais pas, que t'as pu découvrir. Vas-y, montre-nous, genre. Dis-nous.
Je vais vous montrer à l'audio. alors, j'ai compté, j'ai fini 70 jeux pour l'instant cette année, ce qui ne compte pas les jeux que j'ai pas finis.
Il doit y avoir Certified Gamer.
moi, j'ai une année 2025 vraiment à la marge parce que j'ai pas fait Clair Obscur et j'ai pas beaucoup aimé Hollow Knight Song, que j'ai fait intégralement hein, sur 36 heures de jeu. Je l'ai fait pour pouvoir dire que bah non, je ne trouve pas ça si bien. Mais du coup, c'était une année pour moi qui a beaucoup été placée à la fois sous le signe un peu du rétro gaming. Par exemple, quand Monolith a fermé en début d'année, j'ai fait la trilogie des Fear. Alors, ils ont fait que le premier et le deuxième, mais j'ai fait toute la trilogie pour bien faire. Et j'ai trouvé ça génial. J'ai aussi fait Soma, du coup, jeu d'horreur de Frictional Games sous l'océan, que j'ai également trouvé génial. Et j'étais assez embarrassé, du coup, puisque presque tous les jeux qui m'ont marqué cette année, c'était des jeux qui n'étaient pas de cette année. Mais, heureusement, le marché indépendant existe. Et j'ai pris... mon jeu de l'année, il a émergé vraiment la semaine dernière. C'est Routine, un jeu d'horreur qui est en développement depuis 2012. Alors, pas en ligne droite, il y a eu des arrêts, des redémarrages, etc. Mais un jeu d'horreur où... on est globalement un ingénieur dans une station spatiale et il se passe des carabistouilles. Et c'est assez drôle parce qu'il y a vraiment un style... t'es un peu dans les backrooms. Et il y a un filtre VHS, t'es dans des endroits désaffectés, il se passe, entre guillemets, pas grand-chose. Mais c'est un projet qui a été lancé en 2012. Donc il faut se dire que les gens qui l'ont fait, ils sont seulement 3 à la racine du projet. Après, il y a des sous-traitants, etc. Mais à la racine, ils sont 3. Ils ont eu en 2012 la vision de ce que serait l'horreur en 2021. Alors évidemment, en 2025, c'est moins surprenant. Mais quand j'y joue avec ce contexte-là, je me dis que c'est quand même extrêmement fort d'avoir autant eu la vision sur l'avenir. Mmh. Et ces 4 heures d'expérience, moi, j'ai été terrorisé du début à la fin. Donc, j'ai passé un très bon moment, concrètement. Et sinon, bah, Absolum, jeu de beat'em up franco-canadien, qui était mon jeu de l'année avant Routine.
D'accord, que c'est par Dotemu, c'est ça?
Dotemu, ouais, ouais.
Ouais, putain, c'est sur ma liste.
Je sais pas comment dire leur nom, mais Dotemu, c'est extrêmement bien. Donc Dotemu, éditeur français, style graphique par Supamonk, c'est un studio d'animation français, et gameplay réalisé par un studio canadien, québécois, Guard Crush Games, qui avait déjà fait Streets of Rage 4. Donc c'est un beat'em up doublé d'un roguelike, et c'est tout simplement trop bien à jouer. Il n'y a pas beaucoup de descriptions à faire, on avance, on tape des trucs, et il se passe des événements aléatoires, et c'est tout simplement hyper jouissif. Et après, pour le dire un peu plus rapidement quand même, pour vous laisser la parole dans votre propre émission, j'avais deux autres jeux indés, Pipistrello and the Cursed Yo-Yo. Alors Pipistrello, c'est un mot qui est très drôle en français, je vous l'accorde, mais qui veut dire chauve-souris tout simplement en italien, et qui est une sorte de Zelda Game Boy Advance, mais en 2025, et c'est très bien la Game Boy Advance. Et j'ai aussi beaucoup aimé Metal Eden, qui est un FPS polonais, des gens qui avaient fait Ruiner en 2018-2019, je ne sais plus exactement. Et c'est un peu Doom Eternal 2, si on le dit très rapidement, ou alors Doom Eternal un peu avec le graphique de Ghost Runner, c'est-à-dire donc très cyberpunk, dans une cité dans les airs, et de la musique électro qui tabasse. Et c'était vraiment un très très bon FPS, alors seulement 4 heures, voilà, mais qui m'a donné énormément de plaisir.
Ok, ok, bah, gracias, monsieur Kael. Ulysse, tu veux y aller ?
Vas-y. Donc, bah, moi, mes pratiques cette année, je sais que moi, j'ai fini 32 ou 33 titres, donc la moitié, un peu moins de la moitié que ce qu'a fait Jules. Après, j'en ai beaucoup que j'ai commencé et que j'ai pas fini, un peu comme des livres. C'est une année où j'ai joué à beaucoup, beaucoup de choses, mais sans forcément aller toujours au bout. Mais ce qui m'a le plus marqué, je dirais que, ouais, pareil, c'est surtout des jeux indés. C'est vraiment beaucoup de titres indépendants ou double A. Il y a des triple A que j'ai pas encore fini. Je vais les citer là parce qu'ils sont pas dans mon top, du coup, mais peut-être qu'ils le seraient, hein, si j'arrivais au bout. Par exemple, Death Stranding 2, je l'ai commencé il y a 2 jours, mais j'ai que 10 heures dessus, mais je trouve ça très bien, mais en même temps, je voulais refaire le premier cette année, du coup, ça c'est... J'ai pas prêt... Je me suis mal organisé, on va dire. Pareil pour Ghost of Yotei, d'autres titres comme ça, des grosses exclus. Mais moi, dans mes mentions déjà, je me suis mis, donc, The Outer Worlds 2, j'avais pas trop aimé le premier, j'avoue je suis pas fan moi de base, je crois que c'était très redondant, le bail des quêtes etc, même s'il y a beaucoup de choix, là je sais pas pourquoi il y a un truc qui clique, je trouve que ça marche vraiment bien, je l'ai pas encore fini, mais ça fait partie des jeux que j'ai hâte de retrouver et de finir tranquillement. Après je sais que Soul va dire pareil, mais il y a eu la saison des Simpsons dans Fortnite,
c'était un moment super cool,
on a déjà beaucoup critiqué les jeux à service dans l'émission, on a même parlé avec Jules dans la saison 1 je crois. Mais le fait est qu'il y avait tellement un amour, un soin apporté à la carte, aux petits easter eggs, à plein de choses, ça fait que c'était agréable en fait de faire un petit battle royale, comme ça j'ai dû mettre 15-20 heures sur cette saison et je trouvais ça hyper bien. Là j'ai joué beaucoup moins d'un coup, bizarrement, depuis que ça s'est retiré, mais ça aura quand même rythmé ma fin d'année.
Ouais, en tant que fan de la série, franchement, je peux permettre la parenthèse, mais on s'est vraiment senti... Ouais, la première fois où on drop à Springfield, au Camp Krusty ou à Evergreen Terrace, c'est... Ouais, genre, c'était rigolo. Franchement, on a bien kiffé.
Ouais. Après, du coup, il y a les Doug Detective que j'ai découvert cette année. Donc, j'ai fait le 1 et le 2. Et le 2, c'était vraiment un de mes petits chouchous que j'ai fait aussi cette année. En jeu indé, il y a eu ce Dark Queen of Mortholm, qui est un petit jeu où tu joues un boss de Dark Souls qui affronte justement le PNJ joueur qui revient sans cesse pour te buter. Et je trouvais ça absolument fantastique. Mais c'est pas du tout mon top. Comme Battlefield 6, qui est un des jeux que moi j'attendais le plus cette année parce que je suis un gros fan de Battlefield. Je trouve que c'est très bon. C'est pas incroyable et j'ai du mal à mettre les jeux multijoueurs aussi dans mon top 5, entre guillemets. Mais c'était un peu le truc. Et donc dans mon top 5, pour faire très bref, il y avait Doom, ce Dark Ages, que j'ai mis en 5ème. La musique est pas aussi bonne que Eternal ou le Doom 2016, mais le gameplay est tellement cool. Le fait est que, genre, il y a un niveau qui me reste en tête, celui où le Slayer, il est mort et il doit ressortir des enfers pour retourner, du coup, entre guillemets, parmi les vivants. Et donc, il hijack le navire des enfers. Genre, il bute tout le monde, entre guillemets, dessus et tout. Je trouve ça vraiment cool. C'est vraiment un jeu qui a un bête de level design où on sent le fait que là, le ray tracing est utilisé. Je trouve que c'est important. Tu sens que comment ça leur a fait gagner du temps sur la façon dont ils ont abordé le level design du jeu pour se dire, ok, on peut faire des vraies arènes énormes avec un rendu graphique toujours aussi entre guillemets précis. Donc c'était vraiment vraiment super. Mario Kart World, je l'ai noté parce que la course arc-en-ciel, C'est un des moments de l'année où j'ai eu les larmes aux yeux quand je l'ai fait la première fois avec Soul, ça m'a vraiment ému. Justement, elle est tellement cool, la musique, tout est parfait. C'est pas un jeu parfait, c'est pas un grand jeu de course arcade, mais je pense que c'est un bon Mario Kart et que peut-être avec le temps, s'il y a du contenu, il se bonifiera. En troisième, autre jeu Nintendo, c'est Donkey Kong Bonanza. J'y repense beaucoup moins que quand je l'ai fini, quand même, étonnamment. Mais je trouve que c'est super fun, coloré, c'est plein d'idées, un peu comme Astro Bot. Et mon deuxième jeu avant mon préféré, c'est Many Nights the Whisper. Pareil, jeu indé. Et en fait, pareil, le jeu, je crois, il dure 3-4 heures, même pas à faire. Mais c'est 3-4 heures où je me suis pris à rêver, à être dans ce monde, à me dire, ah, s'ils m'ont lancé de fronde. En gros, pour le résumer, c'est une sorte d'élu. Tous les 15 ans, il y en a un. Et là, on te dit, ok, dans quelques semaines, tu auras un lancer de fronde à faire à travers l'océan. Et si ta fronde allume une sorte de torche géante, tous les vœux que les citoyens t'ont donnés dans cette ville, ils vont se réaliser. Si tu le rates, bah tant pis. Il y aura un nouvel élu, on recommencera. Et en fait, le jeu, il se construit comme ça, jusqu'à son paroxysme. Et le moment où il fallait faire le dernier lancer, tu t'es entraîné pendant 2-3 heures, t'as fait ça en boucle. C'est juste avec le bouton gauche ou droit de la souris. Donc c'est très très simple en termes de gameplay. Mais t'as aucune indication visuelle pour ton lancer. Et au moment où j'ai dû faire ce lancer-là et me dire, ok, est-ce que je vais réussir à faire que tous les vœux qu'on m'a donnés, que les chats deviennent, je sais pas, roses, mettre fin à la guerre dans le monde, et tout, est-ce que ça va le faire? Truc qui se lance. Et j'étais vraiment genre hyper à fond dedans, alors que tu sais, à la fin, le jeu il se finit, t'as le générique, l'écran sort, je suis bon, ça reste la merde dans le monde, tu vois. Mais je me suis pris un peu à rêver comme ça pendant 4 heures et ça m'a énormément marqué. Et par contre, mon jeu de l'année, c'est The Alters. J'en attendais pas grand-chose. J'ai mis beaucoup de temps avant de le faire. Genre, j'ai mis 3-4 mois après sa sortie. Et en fait, je trouve que c'est un jeu de gestion incroyable. Alors que de base, je suis pas jeu de gestion. J'ai beaucoup de mal avec ça. Je sais que Frostpunk, je l'avais vite fait tester, mais j'étais pas trop rentré dedans. Je trouve ça très froid. Pour un mauvais jeu de mots. Et en fait, là, l'idée d'amener toute la dynamique très personnelle avec donc le fait qu'on joue Jan Dolski, un ingénieur paumé sur une planète à l'autre bout de l'univers, qui doit créer des clones en fait, de lui pour gérer la base, ça ajoute une dimension psychologique que j'avais pas forcément envisagée dans ce genre de jeu, où forcément c'est con, mais ça personnifie la main d'œuvre. Tu te dis, bah ouais, mais tel employé que je veux faire cruncher 12 heures par jour, c'est un peu moi, en fait. Donc, est-ce que je l'estime comme mon égal, ou je vais, tu sais, genre... une sorte de... Genre, je me protégeais et me dire, non, mais c'est un esclave, c'est un mec que j'ai créé de toutes pièces, il a pas de valeur. Et en fait, ça te remet en question comme ça sur ton rapport à... juste au travail, en fait. Et je suis en mode, ouais... je sais pas si Karl Marx avait vu ce jeu, peut-être qu'il aurait été en mode, let's go, tu vois. Mais je trouve que ça marche très très bien, c'est très bien narré, c'est super beau, c'est le Unreal 5 qui tourne bien sur PC. Et il y a quelques petits bugs, notamment bah, même les trucs de traduction qu'il y a eu dans d'autres langues, mais... C'est vraiment un jeu qui va me rester. La fin m'a vraiment ému, elle m'a fait même pleurer. Je crois qu'il y a 6 fins différentes et je trouve que c'est un jeu à faire. S'il y avait un jeu que je devais retenir, ce serait lui.
Bah, merci beaucoup. Moi maintenant, bah, je vais essayer d'aller un peu vite parce qu'on est déjà... Ouais, il ne reste plus beaucoup de temps, mais je vais essayer d'aller vite. Moi cette année, j'ai compté. Le problème, c'est que sur Twitter, je faisais un peu la liste. Mais à chaque fois, à la moitié de l'année, je sais pas, genre j'ai la flemme. Et genre, du coup, j'oublie. Mais genre, je sais qu'au total, je suis entre 25 et 30 jeux. Que j'ai découvert cette année, donc pas que des jeux de 2025. Mais moi, j'ai retenu vraiment 3 jeux. Je pense qu'un peu comme l'année dernière, ça a été une année qui a été, on va dire, sous le prisme de jeux indés et de rétro gaming. Je sais que le jeu rétro gaming, c'est un jeu GameCube, c'est vraiment le Mario Tennis. Ça, j'y ai trop joué. Et vraiment, il y a des moments, tu sais, genre, je sais qu'il y avait Splinter Cell qui m'attendait dans le coin, et j'étais là en mode, non, je préfère jouer à Mario Tennis alors que je voulais le faire Splinter Cell. Et donc ouais, vraiment sous le prisme du jeu indé et du rétro gaming. Mais vraiment, dans tout ça, j'ai retenu vraiment 3 jeux. Et le troisième dans la liste, c'est Split Fiction. Jeu vraiment, vraiment super cool, que je préfère même à It Takes Two, que j'ai fait avec mon ami Nicolas, que je salue. Franchement, je trouve que c'est vraiment une nette amélioration de la formule de It Takes Two. Sincèrement, je trouve que le jeu est beaucoup mieux rythmé et je trouve que l'univers qui est mis en place et la dynamique entre les personnages fonctionne vraiment bien. Je pense que vraiment, ils ont... Le truc, c'est que It Takes Two avait tellement fait l'événement à sa sortie que du coup, je trouve que Split Fiction est un peu passé. Genre, il a quand même été pas mal apprécié. Je pense que la critique l'a vraiment mis... l'a beaucoup apprécié, mais je trouve que Ah, il est mieux que It Takes Two quand même. Genre, franchement, moi, je trouve qu'il me touche vraiment plus. Donc, ça a été vraiment, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir un bon jeu coop en local. On l'a fait sur son canapé. Donc, franchement, c'était super cool. Donc, merci Split Fiction et merci Nico. Deuxième jeu de l'année, c'était sans doute le jeu que moi j'attendais le plus cette année. Ça fait on a fait les deux derniers épisodes bilan. Il était dans les jeux que j'attendais le plus. Et là, enfin, il est sorti. Du coup, c'est Hollow Knight Silksong.
Ok.
Et du coup, qui, bah, un peu comme Split Fiction, je trouve que est vraiment une nette amélioration du premier opus de la Team Cherry. Je trouve sincèrement que c'est une anomalie d'avoir un jeu pareil qui coûte seulement 20€ pour un jeu qui, voilà, pour une première run, voilà, j'ai dû, pour faire ma première run, il m'a fallu à peu près 35 heures, ce qui est assez balèze. Et bah, non, sincèrement, je suis pas de ceux qui pensent que c'est un chef-d'œuvre ultime, le 10 sur 10, c'est un jeu qui est clairement imparfait, j'ai pas de souci avec ça. Mais c'est-à-dire, genre, si c'est dans ma tête, c'est en mode, si c'est aussi bien que Hollow Knight, c'est exceptionnel. Je pensais que ça allait être le cas, mais je pensais pas que ça allait vraiment être mieux. Je trouve sincèrement qu'en termes de gameplay, ça va chercher d'autres éléments. J'aime beaucoup les éléments qu'on peut jeter. Maintenant, tu sais, genre, t'as des kunai, t'as des bombes, t'as plein de petits trucs qui rendent le gameplay différent. Le platforming est vraiment ultra sévère, et je pense que c'est là le souci que j'ai peut-être avec le jeu. Je trouve qu'il parfois manque un peu de finesse vis-à-vis de... Il est vraiment extrêmement punitif sur certains endroits, et même parfois sur... parfois on va avoir des boss qui vont être extrêmement durs, mais parfois ce qui va être le plus dur, ça va être le chemin qu'on va devoir faire pour revenir au boss, qui est vraiment, parfois, où c'est vraiment un défaut du jeu, et j'ai pas le peur de le dire. Il y en a qui vont dire non, mais moi j'en ai marre du problème avec le skill issue. Je pense que, tu sais, genre, admettre un défaut à des œuvres, c'est pas un souci, tu sais, genre... C'est genre, j'ai pas de souci à dire que c'est mon deuxième jeu préféré de l'année. Il est loin d'être parfait. il est loin d'être parfait. Mais franchement, derrière, voilà, la musique de Christopher Larkin, elle est au top. Franchement, c'est. C'est magnifique. Franchement, genre là, je sais que je l'ai fini il y a pas très longtemps. Et genre là, je suis déjà en train de me dire, ok, je crois que je vais en. Est-ce que j'attends le. Parce qu'il y aura sans doute un DLC. Est-ce que j'attends le DLC ou je me refais déjà une seconde run? Franchement, Silksong, c'était le top, les refs. Mais c'est pas mon numéro 1, parce que mon numéro 1, du coup, c'est un petit jeu indé sorti en mai 2025. C'est Despeloté. Despeloté de Julian Cuardero, je crois, et Sébastien Valbuena. C'est un jeu qui nous vient tout droit de l'Équateur. J'aurais jamais cru avoir un jeu numéro 1 qui vient genre de l'Équateur. Genre, c'est l'Amérique du Sud n'est pas spécialement un continent de jeux vidéo. je pourrais pas en citer beaucoup des jeux qui viennent d'Amérique du Sud. Mais... Waouh, je sais même pas par où commencer. Bah, je vais expliquer rapidement ce que c'est. C'est un petit jeu qui se fait en 2-3 heures. C'est une expérience narrative. Où en fait, on aura du coup Julian Cuardero, qui est le narrateur. Et en fait, on le joue, lui, enfant. C'est du coup une œuvre autobiographique où en fait, il nous raconte du coup son enfance dans la ville de Quito, en Équateur. Et il nous raconte comment, en 2002, comment l'Équateur aller se qualifier pour la Coupe du Monde 2002, et comment cette petite intervalle, voilà, de 6 mois, du premier jusqu'au dernier match, voilà, je crois que c'est de juin jusqu'à novembre, un truc comme ça, il raconte, voilà, comment à ce moment-là, ce pays, il y avait une sorte de bulle où économiquement, ça allait très très mal, genre c'était vraiment la galère et tout, parce que l'Équateur passait au dollar, tout ça et tout. Donc on apprend déjà pas mal de choses sur l'histoire du pays, mais derrière, il raconte aussi comment cette phase-là avec le sport et le football, ça crée un moment un peu de magie dans le pays où c'était 6 mois un peu, tu sais, un peu de naïveté, tu vois, un peu au côté, on oublie un peu tous les problèmes. En France, voilà, on se souvient, je sais pas, en 2018, comment le football peut permettre certaines choses. Mais derrière, c'est un jeu qui parle, voilà, qui a pour thématique la nostalgie. Et il y a un soin qui est apporté au sound design que j'adore. Il y a plein de moments, je pense que vous soyez gamer ou non, où Julian, du coup, on joue le petit Julian, parfois il va jouer à la console dans son salon, et du coup, on va jouer un petit jeu de foot. À la con sur sa télé, et on entend, tu sais, en fond, ses parents en train de parler dans la cuisine, et ils parlent de tout et de rien, mais il y a vraiment un côté de, avec en plus derrière un aspect, une direction artistique très liminale sur, voilà, le souvenir, un côté assez épuré, avec vraiment c'est assez unique, et donc derrière, ça crée quelque chose de spécial, en fait. Je pense que il y en a pour tout le monde dans le jeu, dans Despeloté. C'est vraiment une œuvre assez spéciale. Je pense que ça fait du bien parfois de jouer à quelque chose, et on a l'impression que ça n'a pas été fait par des mecs qui développent des jeux vidéo de base. Il y a un côté tellement brut avec Despeloté où en fait on a l'impression que c'est on oublie un peu les codes, on oublie un peu tous les automatismes qu'on peut avoir quand on a un rapport critique aux jeux vidéo. Le fait d'avoir quelque chose de très sincère qui revient à la base avec quelque chose voilà, d'assez personnel, bah, ça nous remet un peu voilà, dans... Ça nous refait découvrir pourquoi on aime le jeu vidéo à la base. Et voilà, en plus, voilà, comme je dis, c'est un jeu qui parle de nostalgie, tout ça, donc c'est tout est là. Merci Despeloté, merci Julian Cuardero. C'est mon jeu de l'année. C'est exceptionnel. Merci. Maintenant qu'on a fini notre top de l'année, j'aimerais qu'on parle des Game Awards, mais il faut savoir que quelque chose, c'est qu'au moment où on enregistre, les Game Awards n'ont pas été encore diffusés. Il n'y a pas eu encore la cérémonie. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais du coup, on va essayer de parler de cette cérémonie et aussi, pourquoi pas, parler un peu de, voilà, de finir avec nos attentes pour l'année prochaine. Les Game Awards, Jules, on a eu une énorme cérémonie l'année dernière, avec des reveals majeurs, The Witcher 4, le prochain jeu de Fumito Ueda, tout ça, c'était vraiment big, big, big. Qu'est-ce qu'on peut attendre sur la prochaine cérémonie, tu penses ?
En voilà une belle question. moi, je sais, ça a été annoncé qu'il y aura la prochaine extension de Diablo 4, mais je crois que c'est pas ça qui va nous exciter énormément. Je vais être tout à fait honnête, je sais pas ce qu'il peut y avoir d'aussi gros que l'an dernier. Il y avait aussi Okami 2, que t'as pas cité, mais qui est aussi vraiment particulièrement notable. Là, j'ai l'impression que tous les gros trucs, on les voit plus ou moins venir a priori. Les seules surprises pour moi peuvent venir de Santa Monica, le studio de God of War, avec un nouveau projet God of War, qui sera pas la suite directe de Ragnarok peut-être, mais en tout cas quelque chose de...
Un spin-off. Un
spin-off, ou alors l'autre projet de Cory Barlog, le réalisateur de celui de 2018, qui n'a pas sorti quoi que ce soit depuis 2018. Donc peut-être enfin ce projet-là. Moi, c'est, on va dire, peut-être la petite attente que j'ai vis-à-vis de la cérémonie. Et bon, là, du coup, quand l'épisode est diffusé, la cérémonie est sortie, donc je peux en parler. Mais moi, je savais qu'il y aurait le jeu de Jonathan Blow, le créateur de The Witness et Braid. Et ça, c'est clairement, à l'heure où j'enregistre, ce que j'ai le plus envie de voir, et ce qui pour moi sera forcément le plus marquant, parce que The Witness est un de mes jeux préférés, et de ce qu'on m'a déjà rapporté du titre, ça va être assez phénoménal. Assez impressionnant même de complexité. Donc voilà, et puis sinon ça veut surtout dire que je me réveille à 2h du matin pour suivre la conférence en direct pour le travail, donc je suis moyennement enthousiaste, mais bon voilà, on y sera.
Et toi Ulysse, t'as des attentes peut-être pour les Game Awards Allez, ce que demande au Père Noël, Geoff Keighley.
Moi ma hot take, mais vraiment c'est impossible, c'est genre ouais Half-Life 3, c'est genre un truc comme ça. Non mais je me dis... J'y ai réfléchi, mais c'est impossible. Mais tu sais, vu que Sarah Bond et tout, ils étaient là en mode ah, Microsoft, on va peut-être faire avec Xbox une nouvelle console, vous inquiétez pas. Je sais qu'en 2019, la Series X avait été annoncée au Game Awards. Je me dis, vu que Microsoft et Xbox n'ont plus rien à foutre du côté d'avoir leur conf à eux, de faire un peu les choses comme les autres, de mettre un peu de soin, est-ce que la prochaine Xbox serait pas montrée là ? Je pense que non. Mais
tu m'ôtes les mots de la bouche parce que je l'avais dans mes prédictions en mode pourquoi pas du hardware et
franchement
pas Microsoft.
T'as rêvé, ouais. Hein.
Ouais. En vrai, je suis en mode. Il y a très peu de chances que ça arrive, mais allez.
Parce que la PS5 Pro, ça fait quoi ? Ça fait un an qu'elle est sortie ?
Ouais, c'est ça.
Je me dis, ça c'est juste très bête, mais Microsoft, ils sont jamais vraiment les premiers à initier quoi que ce soit. Ils aiment bien suivre les tendances. Et là, le fait est que la console la plus puissante du marché de salon, c'est Sony qui l'a. Est-ce qu'il n'y a pas un truc d'ego ? Ils vont se dire, bon, ça nous fait un peu chier, mettons une nouvelle Xbox pour l'année prochaine. Comme ça, au moins, on est sûr de lancer, entre guillemets, de reprendre un peu la couronne. C'est comme la One X avec la PS4 Pro. Je balance ça en mode, qui sait ?
Moi, tu vois, Switch, je dirais qu'ils ont bien révélé Hellblade 2 en 2019 pour le sortir en 2024. Donc, rien ne les engage. Ils peuvent montrer la nouvelle console demain et la sortir en 2029, c'est Xbox.
Non, oui, en termes de com, de toute façon, on est...
Voilà.
On sait jamais.
Mais sinon, non, j'ai pas d'annonce particulière. J'avoue que moi, les Game Awards, là, je vais les regarder aussi...
On
avec
va
toi, justement, pas pour le taf, juste comme ça, pour le plaisir. On sera en JeffCon 1, mais sinon, j'ai pas d'attente.
Moi non plus, pas spécialement d'attente, surtout après la cérémonie qui était XXL l'année dernière. Je me sens un peu comme Anton Ego dans Ratatouille. Vas-y, Geoff, vas-y, montre-moi ce que t'as, tu vois. Et who knows.
Après, dans les grosses annonces qu'on a citées de l'an dernier, il y a quand même Okami 2 et The Witcher 4 qui sortent pas avant genre la fin de la décennie.
Ouais,
c'est vrai que c'est facile de créer de la hype avec des jeux qui vont sortir quand on sera
et qui n'existent
père
pas.
Et qu'on sera marié. Moi, je veux dire, bon, c'est un peu triché.
Ouais, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Vous avez quelque chose à rajouter, peut-être ? Allez, là, si vous pensez à un truc.
Je trouve quand même que c'est une année qui était atroce pour les licenciements. Je crois qu'il y a eu, donc, on a... pas trop évoqué, on voulait, mais justement, avec l'IA, Microsoft avait licencié 9000 personnes. Je crois
pour
qu'on
l'instant.
Pour l'instant. Ça va sûrement empirer encore parce qu'ils mettent en avant un copilot, etc. Mais c'est vrai que ça fait de la peine quand on voit que les jeux qu'ils ont sortis, je trouve, cette année, sont vraiment de très bons titres. Je pensais notamment à Keeper et South of Midnight, qui sont pas des chefs-d'œuvre, tu vois. Mais Keeper, je trouve que c'est vraiment un super bon jeu de 4-5 heures. Et pareil, South of Midnight, je sais que Jules avait fait le test, je crois. Bah, j'y repense de temps à autre. C'est vraiment un jeu que je trouve hyper sympa. Le gameplay est en effet assez...
Très basique, il faut le dire.
Mais l'ambiance, l'enrobage est tellement chouette, tellement inspirée qu'il me reste...
Ouais, c'est très bien que Xbox ait des petits jeux sur lesquels se reposer afin de nourrir leur image.
Mais du coup, tu vois, je me dis quand même que le Game Pass a quand même sa valeur où, là maintenant, si tu prenais le Game Pass avant qu'il coûte 800€ par mois, tu sais, genre t'avais, bah ouais, du Clair Obscur, qui est quand même le jeu événement de l'année, on en a pas parlé, mais ça reste le jeu qui a vraiment rythmé un peu l'année, voilà. T'as bah, du The Elder, ce qui était mon jeu préféré, t'as eu du Doom Eternal, Six Song qui est dans le Game Pass. Enfin, tu sais, c'est une proposition qui a eu tous les jeux un peu marquants, du Black Ops 7. Pardon, Jules.
Ah, ça m'a marqué, mais vraiment à l'autre opposé du spectre.
Bah, c'est assez marquant, Black Ops 7, ça.
Ouais. Ça, voilà. ça vous scarifie un homme, hein. Il n'y a pas de doute.
Mais voilà, moi, c'est mon petit mot, juste pour dire que, bah, tu sais, on a beaucoup crashé sur Xbox, même sur RNG et tout. Je me dis, ah, j'aimerais bien. J'ai un peu d'espoir, c'est naïf, mais j'aimerais qu'ils reprennent un peu, genre, de bonté. Qu'ils aient un peu une sorte de, je sais pas, qu'ils soient hantés par les fantômes du passé, du présent et du futur, un peu comme Scrooge, et qu'ils disent, ah, c'est vrai, peut-être qu'on devrait aimer nos développeurs, plus licencier et fermer de studio. Évidemment, c'est pas ce que j'aurais sous le sapin, mais bon.
On verra. Jules, peut-être c'est un dernier mot envoyé à l'industrie.
Non, mais je suis vraiment d'accord avec Ulysse. Je suis vraiment d'accord avec Ulysse parce qu'à chaque fois que je teste un jeu Xbox, je me dis, ah, c'est vachement bien, mais tout le monde est probablement déjà licencié, donc ça n'a aucune importance. voilà, donc j'en suis malheureux à chaque fois. Oui, bah, il a tout dit. Le dernier mot, c'est en 2026, arrêtez de licencier juste. Enfin, parce qu'en fait, si vous licenciez, vous perdez le savoir institutionnel de vos développeurs, et après, vos jeux suivants, ils sont pourris parce que vous engagez des juniors et ils savent pas faire des jeux. Bah, c'est normal, c'est des juniors. Mais du coup, il n'y a plus de seniors pour leur enseigner. Et c'est pour ça que les jeux japonais, ils sont très bien en ce moment. Parce qu'eux, ils ont gardé leurs seniors. Il n'y a pas de mystère. Hein. C'est pas de « Ah, eux, là-bas, ils sont pas woke ». Non, non, c'est pas une question de wokisme. Ils sont tous d'extrême droite, c'est sûr. Mais cependant, ils ont surtout leurs développeurs seniors. Et c'est ça qui fait la diff.
Tu sais quoi, je vais rien rajouter.
On a tout dit.
Non, mais classique dit, RNG. Jouez à des jeux, faites-vous kiffer. Arrêtez de vous plaindre sur Internet. Pour tout et absolument rien. Le jeu vidéo n'est pas mort, comme diraient certains. C'était RNG, Radio Campus Paris, 93.9 FM. Merci Ulysse, merci Kael. On se retrouve l'année prochaine, je l'espère, en 2026 pour un nouvel épisode bilan. Ciao, bisous, passez de bonnes fêtes. Au revoir.
Ciao.
Au revoir.
First, the basics of particle blast deflection. Dude, I could beat game.